Salut, avant ta vidéo, je voudrais te parler du partenaire du jour, l'Agence française de développement. L'AFD, c'est une agence qui accompagne et finance des projets partout dans le monde autour du climat, de l'agriculture, de la santé, de l'éducation. Il y a énormément de projets à découvrir, je te mets un lien en description. Et maintenant, place à l'actu. Autre sujet qu'on voulait aborder ensemble, chers amis, le drame qui secoue l'île de Mayotte. La France a été touchée par la catastrophe naturelle la plus grave de son histoire depuis plusieurs siècles. On parle bien sûr du cyclone Chido qui a ravagé Mayotte. C'était samedi dernier. Il y a au moins 31 morts recensés aujourd'hui officiellement, des milliers de blessés dans le département le plus pauvre de France. Ce bilan est encore très en dessous de la réalité puisque les sauvetages sont toujours en cours. L'État français et plusieurs associations envoient du personnel et de l'aide humanitaire pour aider les centaines de milliers de personnes qui n'ont plus de toit, plus d'eau, plus d'électricité. Il faut d'abord rappeler que Mayotte, c'est un des territoires les plus délaissés de la République. C'est le territoire le plus pauvre de France, Emilio.
Oui, je me suis dit que il fallait qu'on repose quand même ce que c'est Mayotte, parce qu'en fait, on en a assez peu parlé. On entend surtout parler de Mayotte pour les problématiques qui sont liées à l'immigration. Donc, du coup, je suis allé tout simplement sur le site de l'INSEE qui répertorie des données sociales sur Mayotte. Mayotte, c'est simple, c'est la moitié de la population qui vit avec moins de 3 140 euros. Non pas par mois, mais par an. À titre de comparaison, l'Île-de-France, c'est en moyenne 25 000 euros par an. En Normandie, c'est 22 000. Donc on est très, très, très en deçà. 68,5% de la population n'a aucun diplôme à Mayotte, par exemple, contre une moyenne française qui est à 25,7%. Et aussi, pour compléter ce tableau, seuls 30% des personnes en âge de travailler ont un emploi. C'est-à-dire que Mayotte, c'est le territoire de la République le plus abandonné. En fait, c'est un territoire où la République n'existe plus, où les services publics sont complètement dépassés lorsqu'ils existent, avec une situation sanitaire déplorable. C'est-à-dire que la catastrophe à Mayotte, elle est arrivée avant Chido. Chido, c'est la catastrophe des catastrophes, mais il se trouve que c'est le territoire aujourd'hui qui est socialement le plus en difficulté de la France. Voilà.
Namou, Mayotte, c'est également particulièrement vulnérable aux enjeux climatiques.
Oui, tout à fait. Bah, c'est dû déjà par la position de l'île qui est située du coup dans l'océan Indien.
Pour ceux qui ne voient pas, c'est à peu près entre Madagascar et la côte est de l'Afrique.
C'est ça.
Et donc, dans les Comores, ce qu'on appelle l'archipel des Comores.
Et donc, c'est une zone qui est déjà exposée au cyclone. Mais en fait, habituellement, Mayotte, par rapport à sa position, elle est plutôt protégée en fait de l'œil du cyclone, et donc là c'est assez impressionnant de voir l'île n'a pas été protégée par Madagascar, qui est une île beaucoup plus grande par rapport à l'archipel des Comores. Et donc le cyclone Chido, c'est le plus violent à toucher l'archipel depuis 90 ans. Et selon une étude menée par l'Imperial College London, le dérèglement climatique a contribué à justement intensifier la violence de la tempête, à cause entre autres de l'augmentation de la température des eaux. Mmh. Et donc ajouter à cela des habitations de fortune en tôle appelées Banga à Mayotte, ça fait pas le poids face à des rafales à plus de 250 km par heure. Et on se retrouve avec un cocktail juste explosif ou avec la vie de plusieurs milliers de personnes en danger. Et pour rappel, l'état de calamité naturelle exceptionnelle a été activé pour Mayotte. Et c'est une disposition inédite qui concerne en fait les territoires ultramarins et qui existe depuis février 2022. Et ça permet de faciliter et accélérer la mise en place de mesures d'urgence lorsqu'il y a un danger pour la sécurité des habitants, des difficultés d'accès aux premières nécessités et un risque pour l'ordre public, entre autres. Et c'est ce qui arrive là en ce moment pour Mayotte. Espérons que ça va permettre de débloquer une aide beaucoup plus rapide. Mais là, ce qu'on voit, c'est que ça fait 5 jours et il y a des territoires qui n'ont toujours pas vu l'ombre d'un seul secours.
La majorité de l'île.
Le président de la République, Emmanuel Macron, a annoncé que le 23 décembre prochain serait un jour de deuil national en solidarité avec les Mahorais. Safia, le ministre de l'Intérieur, Bruno Retailleau, lorsqu'il s'est rendu sur place très rapidement après le typhon, il a tout de suite mis en avant la problématique migratoire qui touche Mayotte depuis longtemps. Pourquoi ?
Je suis tellement en colère et je me sens tellement mal par rapport à ce qui se passe à Mayotte, parce que pendant que Bruno Retailleau fait un tweet en accusant l'immigration comme étant une variable responsable dans ce qui se passe, la majorité de l'île n'a pas accès au secours, on n'a pas de contact avec la majorité de l'île. Les bilans officiels provisoires de l'État français sont de 31 morts, alors qu'on estime qu'il y a plusieurs milliers, voire de dizaines de milliers de morts. Maintenant, en fait, on n'en sait rien. Il faudrait presque demander une commission d'enquête indépendante pour savoir le nombre de morts, tant, je pense, à mon sens, l'État français est responsable de ce qui se passe. Et je crois que Bruno Retailleau, en utilisant la xénophobie, il essaye de masquer profondément la responsabilité de l'État français et de la colonisation française. Et j'ai presque envie d'en pleurer, parce qu'en fait, il faut savoir que tous ces morts dont on ne connaît pas encore l'identité et le nombre, ce n'est pas qu'une simple histoire de pluie, de vent, d'ouragan, de cyclone, de ce que vous voulez. C'est quand des milliers de personnes habitent dans des bidonvilles. Quand les infrastructures sont aussi faibles et peuvent s'écrouler. Quand les personnes en amont du cyclone n'avaient même pas accès aux maternités et à l'hôpital. Comment pouvez-vous croire que forcément un épisode comme celui-ci va limiter la casse? J'ai trouvé un témoignage dans l'agence France Presse qui pour moi est extrêmement révélateur. C'est que il y a des personnes, des milliers de personnes qui n'ont pas osé se mettre à l'abri quand la préfecture le demandait, parce qu'elles avaient peur que ce message de la préfecture soit un piège et occasionne des rafles de sans-papiers. Et ça a notamment été raconté par un infirmier à la retraite qui s'appelle Ousseini Balachi, et il l'a dit notamment à l'agence France Presse. Et Bruno Retailleau, donc quand il fait ce tweet, d'ailleurs il le fait en même temps qu'il y a des décrets de couvre-feu qui sont imposés à Mayotte. Donc ça veut dire, pendant que les Mahorais, les Mahoraises et les Comoriens voient bien qu'il y a une responsabilité prégnante de l'État français, de l'impérialisme français, lui, il veut faire en sorte que, en fait, d'éventuelles révoltes de colère et d'éventuelles révoltes de la faim, parce qu'il n'y a rien à manger actuellement, en fait, ne se dirigent pas contre le gouvernement, mais deviennent des pogroms anti-comoriens. Et c'est ça qui est extrêmement grave. Et je conclurai sur ça. Je vous invite vraiment à vous renseigner sur l'histoire de la colonisation de Mayotte, parce que la xénophobie a toujours été un outil pour l'État français et pour les élites mahoraises pour faire en sorte de maintenir cette île et les intérêts français dans l'océan Indien.
Et j'ajoute, sur la question, c'est qu'Emmanuel Macron aussi, juste avant le début de l'émission, il a remis une pièce dans la machine sur la question de l'immigration. Il a dit « Nous avons une difficulté liée à la géographie et à l'histoire de Mayotte » et il promet de, en matière d'immigration, de durcir les dispositifs.
Voilà. Ouais, c'est pas nouveau, la question migratoire à Mayotte. Déjà sous Gérald Darmanin, on en parlait. Déjà sous le PS aussi, on en parlait. Ça fait longtemps. Pour vous donner des chiffres, il y a 330 000 habitants à Mayotte. 50% sont étrangers et 25% seraient en situation irrégulière, principalement en provenance des Comores, les îles voisines. Et voilà, on parle de la question migratoire à Mayotte et de la question de l'insécurité également depuis très longtemps dans le gouvernement. Donc à suivre en tout cas. Pour parler de ce drame dont nous parlons ce soir à Mayotte, on est en direct avec Raphaël Kahn. Bonjour Raphaël, j'espère que tu m'entends bien. Tu es journaliste pour Mayotte la Première, la chaîne du service public qui couvre l'archipel. Comment vas-tu ?
Bonjour à tous. Ça va. À titre personnel, je peux estimer extrêmement chanceux par rapport aux dégâts bien plus importants qu'ont subi de nombreux Mahorais. Comme vous pouvez le voir autour de moi, j'ai retrouvé de l'électricité. Mon logement n'a pas subi trop de dégâts. Beaucoup n'ont pas eu cette chance. Donc, à titre personnel, ça va.
Tant mieux et merci encore d'être avec nous ce soir. Quelle est la situation sur place ? Est-ce que l'aide humanitaire arrive ? Qu'est-ce que tu constates autour de toi et avec les gens avec qui tu échanges ?
En tout cas, l'annonce a été faite effectivement que de ce soir, 9 communes sur 17 ont pu commencer à avoir des livraisons de nourriture et d'eau. L'objectif est que toutes les communes puissent être livrées d'ici la fin de la semaine. Il faut s'imaginer que pendant 5 jours, l'intégralité des bidonvilles de habitats précaires ont été complètement rasées. Les habitats en dur ont été fortement endommagés, toutes les toitures ont été envolées. Et en dehors de Mamoudzou, la quatre localités de l'île se retrouvent privées d'électricité, d'eau et surtout de moyens de communication. Là, il y a actuellement seulement 39% du réseau mobile qui a pu être restauré selon l'opérateur Orange. Il y a encore un quart des routes qui n'ont pas été dégagées. Il y a actuellement toujours des villages à Mayotte qui, depuis 5 jours, n'ont pas vu de secours, n'ont pas reçu d'eau, n'ont pas reçu de nourriture. On sait que dans plusieurs communes, des habitants ont déjà commencé à boire l'eau des rivières, à boire l'eau des puits, faute de solutions, ce qui pose des problèmes importants de santé, de salubrité. Alors le préfet a annoncé que des pastilles de potabilisation de l'eau seront distribuées, des stocks d'eau potable seront distribués. Mais ce qu'il faut s'imaginer, ce qu'il faut bien comprendre, c'est que toutes les infrastructures essentielles pour alimenter l'île en électricité, en eau, pour les réseaux de communication, tout est extrêmement endommagé. Et au vu de la situation d'urgence dans laquelle sont de nombreux Mahorais, c'est là aussi toute la difficulté pour réussir à apporter de l'aide à la population. Et il y a aussi cette inquiétude, le manque de nouvelles, car pendant plusieurs jours, il y a eu ces annonces du gouvernement de la mobilisation de l'État, de l'arrivée de renforts, de l'arrivée de tonnes de matériel, de ces distributions alimentaires et en eau. Sauf que comme les gens n'avaient pas d'Internet et pas de réseau mobile, ils n'avaient pas d'informations. Ils sont restés sans nouvelles pendant plusieurs jours en attendant que les secours se mobilisent, qu'il y ait ces livraisons d'eau et de nourriture qui commencent, ça y est, à se mettre en place, à répondre à l'urgence de la crise. Mais pendant longtemps, ça a été surtout beaucoup d'inquiétudes. Et surtout, encore actuellement, on ne connaît pas encore exactement, en fait, l'ampleur de la catastrophe. On commence, grâce aux images satellites, à mesurer l'ampleur des dégâts matériels. Mais vous l'avez évoqué, on ne connaît toujours pas non plus le bilan humain de la catastrophe. Et on ne connaît pas encore totalement les besoins, en fait, en termes aussi de secours et d'aide à la personne, puisque de nombreux villages sont toujours enclavés et on est toujours sans nouvelles à la fois de nombreux habitants, mais aussi des agents des administrations. Parce que c'est ça aussi la difficulté pour les services publics locaux de s'organiser, c'est que tant les agents de la Société Mahoraise des Eaux, d'Électricité de Mayotte, du Conseil départemental, de toutes les administrations, eux aussi se sont retrouvés sinistrés, impossible de les contacter, et donc difficile aussi d'organiser localement les moyens de secours et cette réponse à l'urgence. Là, à nouveau, la situation s'améliore. Le pont aérien a été établi entre Mayotte et La Réunion, ainsi que l'Hexagone. Il y a un peu plus de 1500 renforts de sapeurs-pompiers, de secouristes, d'agents, d'EDF, de soignants qui arrivent actuellement. Demain, un hôpital de campagne va être monté pour suppléer le centre hospitalier du Mans qui a subi de lourds dégâts. Ouais. Actuellement, vous l'évoquez, la situation à Mayotte était déjà assez compliquée avant. Il y avait des problèmes d'insuffisance, de production d'eau, des problèmes de sous-dimensionnement des services publics. Mais ces services publics, là, depuis le passage du cyclone Chido, sont tous à terre et c'est la mobilisation là au fur et à mesure des jours qui permet de rétablir progressivement et de manière encore assez fragile et précaire la situation, notamment avec l'eau qui recommence à être distribuée, l'électricité qui revient petit à petit dans certains pays.
Et c'est dans ces conditions difficiles que le président de la République était en déplacement aujourd'hui. Il était présent sur place, Emmanuel Macron. Qu'est-ce qu'il a dit? Qu'est-ce qu'il a annoncé? Qu'est-ce qu'il compte faire? Et comment est-ce qu'il est reçu sur place?
Il est reçu par beaucoup de cris de désespoir et de colère. Beaucoup d'habitants lui ont demandé quand est-ce qu'on aura de l'eau, quand est-ce qu'on aura de la nourriture, quand est-ce qu'on aura des médicaments. Il y a eu cette invitation aussi à poursuivre son voyage, à rester plus longtemps, à aller ne pas seulement se rendre en Petite Terre, l'île de Petite Terre et à Mamoudzou, le chef-lieu de Mayotte, mais aussi aller se rendre compte de la situation dans le nord, dans le sud, dans le centre de l'île. Et d'où cette décision aussi qui a été annoncée aujourd'hui par Emmanuel Macron de poursuivre sa visite encore demain. Il y a eu notamment cet après-midi un échange assez houleux où Emmanuel Macron était dans l'hémicycle du conseil départemental avec tous les élus, les représentants du monde économique, où justement il a tenu à les rassurer de la mobilisation de l'État en annonçant justement ce que j'évoquais, que les distributions d'aide alimentaire et d'eau potable avaient débuté, se poursuivaient, et que l'objectif était que toutes les communes puissent être ravitaillées d'ici la fin de la semaine. Beaucoup d'élus ont jugé cela assez insuffisant et ont marqué leur inquiétude. Donc il y a eu cette annonce-là. Autre annonce également, le déploiement de 15 satellites Starlink, les satellites d'Elon Musk, actuellement l'un des rares moyens aussi de pouvoir établir une connexion Internet sécurisée. Ces 15 satellites Starlink seront donc déployés dans 15 communes pour permettre à la population de retrouver une connexion Internet, de tenir leurs proches informés de leur situation et aussi eux-mêmes de se tenir informés de l'évolution de la situation. Autre annonce, vous l'avez évoqué, Jean, également ce deuil national décrété pour lundi à 11h, soit 13h, heure de Mayotte.
Merci beaucoup, Raphaël. Est-ce que tu peux nous dire où on peut te suivre, toi, suivre ton travail, si on veut continuer à s'intéresser à Mayotte ?
Très clair, le Mayotte la première, à la fois le site internet, l'antenne radio et télé. Nos équipes sont mobilisées depuis le passage du cyclone, avant même le passage du cyclone, nous étions en antenne spéciale, nous l'avons maintenue pendant toute la durée du cyclone, et là, depuis 5 jours, on essaye, tant bien que mal, au maximum de nos moyens, de continuer à informer la population, malgré nos bâtiments aussi est endommagé, malgré notre matériel qui était lourdement endommagé, malgré le fait que les journalistes, les techniciens, les animateurs de Mayotte la Première, eux aussi sont parfois sans nouvelles de leurs proches, eux aussi leurs domiciles sont sinistrés, mais on essaye de faire ce qu'on peut pour continuer de maintenir notre mission de service public en apportant de l'information à la population dans cette période difficile.
Bravo.
Bravo Raphaël, merci. Courage à toi pour ton travail, à toi et à tes collègues. Merci d'avoir été avec nous ce soir dans l'émission Backseat pour nous tenir au courant de l'actualité à Mayotte. Et oui, vous l'avez compris, mesdames et messieurs, il parlait bien des terminaux de réception du système Starlink, pas des satellites eux-mêmes, mais ça vous l'aviez déduit par vous-même. Namou, les appels aux dons se multiplient. Oui. Comment peut-on aider Mayotte ?
Ben déjà, il y a pas mal de campagnes de dons de la part de plusieurs ONG et associations qui se sont mises en place, notamment la Fondation de France, qui avait participé à une émission spéciale avec France 2, du coup mardi soir, il me semble, et ils ont réussi à récolter 5 millions d'euros pour Mayotte, et les dons continuent, donc vous pouvez vous-même faire un don sur Internet sur le site de la Fondation de France, fondationdefrance.org. Il y a aussi, j'avais une amie qui est basée à Mayotte qui m'expliquait qu'il y a beaucoup de Mahorais qui n'ont pas accès à des distributeurs, donc ils peuvent pas forcément retirer l'argent des cagnottes mises à disposition. Donc ce que vous pouvez faire aussi, c'est des dons matériels, donc des vêtements, donc tout ce qui est imperméable, tente, voilà, il faut savoir qu'à Mayotte, c'est l'été, donc ça sert à rien d'envoyer des pulls ou des choses comme ça, mais des vêtements qui sont légers, qui tiennent, et tout ce qui est denrées alimentaires non périssables en conserve. Et il y a notamment un restaurant comorien dans le 20e arrondissement de Paris qui s'appelle le restaurant Wupici, Wupici, qui fait en sorte de récolter ces dons matériels. Et je vous invite vraiment à regarder sur les réseaux sociaux, il y a plein de campagnes avec des lieux selon les villes en France, des associations qui se mobilisent pour envoyer au plus vite tout ça à Mayotte.
Il y a aussi le Secours Populaire Français qui a lancé une campagne, et mon journal L'Humanité s'y est associé. Vous pouvez retrouver sur les différents sites aussi des liens pour faire des dons.
Secours Populaire, effectivement. Il y en a qui l'ont rappelé, les dons faits à Mayotte sont déductibles d'impôts à hauteur de 75%. Attention seulement s'ils sont faits à des organismes agréés. Tournez-vous vers les organismes agréés, connus, Croix-Rouge, Secours Populaire, enfin voilà, Fondation de France Secours. Et tout.
Je voulais juste rajouter un truc en 30 secondes pour qu'on ait une donnée. Moi, j'ai une source qui est proche du ministère des Solidarités, et le ministère des Solidarités, officiellement, pense que c'est 10 ans de reconstruction à Mayotte qu'il faut. On ne parle pas de semaines, on ne parle pas de mois, on parle d'une décennie. Voilà, c'est tout.
Et dans le before de cette émission, on recevait le directeur général de l'Agence française du développement qui travaille dans le monde entier, mais également à Mayotte et qui nous en a parlé un petit peu. N'hésitez pas à aller le revoir.